Voilà, donc cette série, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On le dit tous ensemble, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà. Donc Jésus est le chemin. Il ne mène pas, il n'instruit pas sur, il est le chemin, la vérité et la vie. « Je suis la vérité ». Donc, je suis la vérité, c'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hein, voilà, parce que quelqu'un qui dit je suis, je sais pas, je suis Napoléon, voilà. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, il semblerait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient je suis le Messie. Hein, c'est étonnant, il y a des périodes comme ça où il y a une prolifération de personnes. Donc, Jésus n'était pas tout seul à se proclamer Messie. D'ailleurs, il ne s'est pas proclamé Messie, il s'est proclamé Fils de l'homme. Mais bon, bien sûr, tous les disciples le considèrent comme Messie. Mais beaucoup à l'époque, et les Romains en ont mis tout plein en prison, parce qu'ils gênaient l'ordre public, ils disaient qu'il était le Messie. Donc est-ce que ce que Jésus a dit, je suis la vérité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il faut croire que la vérité dont Jésus parle, qui est lui, elle s'est incarné dans une personne. Vous voyez, ça, c'est tout à fait nouveau. Les philosophies, qu'elles soient occidentales ou orientales, bouddhisme, taoïsme, etc., ils parlent tous de vérité. Hein. Tout le monde parle de vérité. Hein. Mais ce sont des concepts philosophiques. Bouddha, d'ailleurs, a dit, à la fin de sa vie, je cherche toujours la vérité. Vous voyez, donc, il n'a pas osé dire qu'il est la vérité. Il a cherché la vérité. Et on suit des religions comme ça qui n'ont pas la vérité, qui même le leader cherche la vérité. Là, Jésus dit, je suis la vérité. Voyez-vous, c'est très radical et c'est pour ça que le christianisme fait un clivage. C'est très difficile d'être chrétien, enfin, quand on est vrai chrétien, hein, parce que quand on arrive dans une société où voilà, chacun a sa vérité, voilà, c'est inadmissible de dire j'ai la vérité parce que Jésus est la vérité. Voyez? Donc voilà, il faut aussi qu'on soit dans la sagesse pour savoir comment présenter les choses, mais on ne peut pas ne pas dire que Jésus n'est pas la vérité. Par contre, on peut mettre la forme pour le dire. Donc on va regarder plusieurs aspects. Très pratique ce matin, puisque j'ai parlé dimanche d'avant sur la vérité elle-même. On va rappeler. Alors, je rappelle juste trois choses sur la vérité. Hein. D'abord, elle est révélée dans les Écritures. Hein. Il n'y a pas que Jésus qui a dit « Je suis la vérité », mais toutes les Écritures parlent de cette vérité qui s'est incarnée et qui a été prévue par les prophètes, qui ont dit « Un jour viendra le Messie », etc. Et Jésus est venu. Dans Éphésiens 4, verset 14, je le rappelle, il est écrit: Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, par les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, voyez-vous ce que je disais tout à l'heure, il faut le faire dans l'amour, hein, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps que nous sommes, hein, le corps de Christ, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Hein. Et si on veut être un corps, hein, local ou interlocal, il faut qu'on soit unis. Il faut que les membres, vous voyez, on ne peut pas diviser. Si on est divisé, on ne peut pas croître. C'est comme un corps, si un enfant a pas le bras, a pas ou n'a pas les glandes pour grandir, vous voyez, il faut que toutes les choses fonctionnent dans le corps. Et c'est pour ça que là, on est dans une phase où on reconstruit un corps avec des personnes qui viennent pour établir ici un témoignage chrétien dans cette ville. Alors attendez, là mon truc il a avancé sans que je lui demande de le faire. Donc la première chose, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parfois, et d'ailleurs Jésus était confronté avec ça par les pharisiens, ils ont dit, fais-nous un miracle. Ils ont dit à Jésus, voilà, si tu es la vérité, bah, fais-nous un miracle, comme ça on va croire. Et Est-ce que les miracles prouvent que c'est la vérité? Bien, la dernière fois, on a vu que non. Que non. Parce que les miracles, les magiciens ont fait des miracles devant Moïse. Hein. Et vous savez, ceux qui viennent de l'Afrique aussi, vous avez l'habitude de voir des choses, des gens qui vont voir des personnes, des gourous, autres, etc., qui font des miracles, qui font des choses surnaturelles. Ce n'est pas la preuve hein, que c'est ça. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit que l'antichrist, donc celui qui s'oppose à Christ, il y en a plusieurs, il y en a tout le temps des antichrists dans le monde, hein, mais le dernier, ce sera le grand dictateur, il se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soit quoi? C'est la fin de Thessaloniciens, chapitre 9 à 10, soit condamnés. Voyez-vous, il y a un jugement. Aujourd'hui, on ne parle pas du jugement, on parle de l'amour. Mais n'empêche que dans le temps, il y aura un jugement, il y aura une justice. Voyez-vous. Donc la parole, c'est pour ça que la parole chrétienne, la Bible, elle est radicale. Hein, elle est radicale. Il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la porte ouverte grand à tout le monde, mais à un moment donné, il y a le jugement. C'est-à-dire que Dieu, il est juste. Il est amour, il est justice. Et à un moment donné, il y a une condamnation, il y a un jugement, une séparation. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ceux qui veulent, dans le temps présent, accepter Jésus, bien, ils seront sauvés. Et Dieu ne va pas forcer les gens qui ne veulent pas le suivre à le suivre. Et il y aura donc un jugement. Donc, les miracles, ce n'est pas une preuve. Est-ce que les sentiments, les émotions, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions dans le monde, dans la société. Est-ce que c'est ça une preuve? Non, ils sont trompeurs. Je vous avais partagé, je vais le refaire, le passage d'Ézéchiel, chapitre 8, verset 14, où il est dit que Dieu me conduisit, donc Ézéchiel a été conduit par Dieu, de manière spirituelle, de manière en vision, à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ils pleuraient Tammuz. C'est quoi Tammuz de l'époque hein, tout, ça change, aujourd'hui c'est l'enfant Jésus, avant c'était l'enfant Horus, c'était l'enfant Adonis. C'était... Bon, à chaque fois c'est la mère et l'enfant, voyez-vous. Parce qu'en fait le principe de la mère c'est de donner naissance à un enfant. Donc c'est une image qui a toujours existé dans toutes les civilisations. Et donc là, Israël, à Jérusalem, hein, il y avait des femmes israélites qui pleuraient Tammuz. Hein. En fait, c'est un dieu de la végétation, hein, un dieu du soleil qui se lève tous les matins, qui se couche tous les soirs. Bon, il était adoré, et donc il s'appelait Tammuz. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et on le voit après, vous lisez Ézéchiel chapitre 8, vous le voyez. C'était Tammuz, une divinité phénicienne qui correspondait à l'Adonis des Grecs que les femmes aimaient bien vénérer. Eh bien, ces femmes rentraient dans des extases mystiques, par les pleurs, par les drogues, par toutes sortes de choses. Voyez-vous, et pour Dieu, c'est une abomination. Il a dit, c'est une abomination pour moi de voir ça. Eh bien, c'est les émotions. Donc, c'est pas parce qu'ils vivaient ces émotions-là que c'était vrai. En fait, c'était des idoles qu'ils adoraient. Troisièmement, les expériences ne suffisent pas pour établir la vérité. Vous avez certainement fait des expériences spirituelles. Moi, j'en ai fait de très fortes durant ma vie, pas tous les jours, hein, mais suffisamment pour pouvoir les compter sur les 10 doigts. Des expériences très très fortes, mais ces expériences ne suffisent pas pour établir la vérité. Vous avez Jérémie, le prophète, au chapitre 44 et au verset 15, qui dit « Tous les hommes... » Donc là, c'est les hommes, c'est plus les femmes. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, répondirent à Jérémie. Jérémie, le prophète, qui les a prévenus, en disant, attention, il y a les ennemis qui vont détruire Jérusalem, là. Si vous réveillez pas, si vous n'abandonnez pas vos idoles pour adorer le vrai Dieu, celui qui est là, dans le temple de Jérusalem, etc., mais ce temple sera rasé. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Mais comme ça plaisait pas, ce message plaisait pas, eh bien, voilà, tous les hommes se sont ligués contre Jérémie. Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous ne t'obéirons en rien. Comme ça, c'est clair, hein. Voilà. Voilà, ils ont carrément dit, on ne va pas t'obéir. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel, en plus. Au nom de l'Éternel. Vous voyez, donc, ils sont vraiment arrivés très bas, hein, pour vraiment dire, même si tu parles au nom de l'Éternel, on ne t'obéira pas. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, c'est-à-dire offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme l'ont fait nos pères, nos rois, nos chefs. Alors, nous avions du pain. Voilà, alors, vous voyez, là, c'est les pensions complotistes. Vous voyez, aujourd'hui, on baigne dans le complotisme. On fait des relations de cause à effet, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui prouve que alors que c'est lié à ça, voyez, vous voyez. Mais c'est très, très, très rapide de faire du complot. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, comme si avant, il n'y en avait pas. Ils ne pensaient pas à l'épreuve, Dieu parfois permet les épreuves, mais pour nous ramener. Voyez. Et donc, Dieu est jugé parce qu'il ne donne pas du pain. Enfin bref, je ne vais pas faire prédication là-dessus. Mais ils disent, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Alors nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Et depuis que nous avons cessé, voyez-vous, on est toujours esclaves de l'ennemi. Hein. Là, ils étaient esclaves. Depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Par la famine. Voyez-vous, cette expérience, ils parlent d'une expérience qu'ils ont faite. Donc ils ont dit non, on va te suivre. Hein. Nom de l'Éternel, tout ça. Non, on a donné. On va suivre la reine du ciel et tout ça. Parce qu'elle nous donne à manger, tout ça. Eh bien, c'est l'expérience qui leur disait que les idoles sont mieux que Dieu. Voyez-vous ? Donc ils ont établi leur vérité sur une erreur. Mais tout en étant persuadés que c'est la vérité. Donc attention à l'expérience. Parce que l'expérience n'enlève pas la parole. La parole de Dieu a dit, tu ne mangeras pas, sinon tu vas mourir. Ah ben non, ça m'a rien fait. Oh là, ah non, oui, tu peux le prendre. Tu peux prendre le fruit, il n'y a pas de souci. Vous voyez, l'expérience, j'ai fait une expérience, ça m'a rien fait, donc tu peux la prendre. Et on oublie la parole de Dieu qui a dit, tu ne mangeras pas. L'homme est fait comme ça, et c'est qu'il y a les émotions, les expériences qui prévalent sur lui. Alors la réponse à c'est ce que je viens d'évoquer, c'est le quadrilatère wesleyen. C'est quoi le quadrilatère wesleyen? Je l'ai découvert, parce que j'aime bien cette frise où on voit la nuée de témoins qui nous ont précédés, et Wesley qui est là. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas connu en France, mais qui, moi, m'a marqué parce que son réveil, il était l'origine d'un réveil avec son frère, et puis avec Whitfield, au 18, eh bien, il a duré 100 ans. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Un réveil qui dure 100 ans, ça veut dire que, quelque part, c'est un homme qui sait en qui il a cru, ou la doctrine est bonne, ou etc. Bon. Et il y a, au XXe siècle, donc deux siècles après, un théologien qui a pris ses sermons, il y avait 40 000 sermons qu'il a fait, on les a tous, et il les a décortiqués. Et il a essayé de voir ce qu'il prêchait, ce que John Wesley prêchait. Et en fait, il a découvert ce quadrilatère, c'est-à-dire que ses prédications couvraient ces quatre domaines. Ces quatre domaines. Et ces quatre domaines, c'est quoi ? Et ce quadrilatère se résume à ceci, c'est l'essentiel de la foi. Alors la foi, il faut bien comprendre, c'est l'adhérence, on adhère à une confiance absolue en Jésus, dans la parole. C'est ça la foi, c'est adhérer à ce que Dieu dit. Donc l'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures. Vous l'avez en haut, c'est marqué en anglais, mais c'est les Écritures. Les Écritures... Quand on lit les Écritures, eh bien, on a la révélation de la vérité. Ensuite, elle est éclairée par la tradition, à gauche. Éclairée. C'est pas de la révélation, c'est éclairé. Ça veut dire que tous ces gens-là qui sont là depuis 2000 ans, ils ont vécu des choses comme nous. Et ils ont vécu des difficultés, des épreuves, des victoires, etc. Et cette tradition, c'est pas la tradition, les rites, il faut faire ceci, cela. C'est la tradition, la bonne tradition de dire, tiens, j'ai vécu ça, j'ai appris ça. Donc je te le transmets. Et c'est la transmission de père-fils, hein, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la foi. Donc ils nous transmettent des choses, en dehors des Écritures, mais qui font aussi, qui nous aident à ne pas reproduire des bêtises du passé. Donc elles sont révélées dans les Écritures, éclairées par la tradition, vivifiées, la foi est vivifiée par l'expérience. Donc vous voyez, l'expérience n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue. Sauf qu'elle n'est pas la seule manière de connaître la vérité. Donc vivifié par l'expérience, chacun fait l'expérience, la nouvelle naissance, fait l'expérience de Dieu, fait l'expérience de marcher avec le Seigneur, et il est confirmé par la raison. La raison, le Seigneur n'a pas demandé, en tant que chrétien, de mettre la raison dans un tiroir. La raison, l'intelligence et tout ça, Dieu nous a, elle est à l'image de Dieu. Dieu qui a créé tout cela, vous ne pensez pas qu'il faut une intelligence pour la créer, la création ? Eh bien, il nous a donné cette intelligence pour aussi faire des projets, pour créer autour de nous, etc. Voilà. Et donc, en tant que chrétien, il faut l'utiliser, et en particulier pour expliquer les Écritures, pour ce qu'on appelle l'apologétique, la rhétorique, l'enseignement, la didactique, etc. Et tout ça, eh bien, on l'apprend quand on est pasteur ou prédicateur, parce que sinon, on ne peut pas expliquer les Écritures. Donc, vous voyez, la foi, l'essentiel de la foi, elle est alimentée par les Écritures, par la tradition, par l'expérience et par la raison. Et ça, ça vous permet d'être équilibré dans votre foi et de ne pas tomber dans le mysticisme, dans l'expérience qui me parle et puis ça devient une vérité, etc. Allô ? Ça va ? Je ne vous perds pas, là ? En tout cas, le quadrilatère wesleyen fait partie de nos valeurs de base de cette Église. Donc on peut le reprendre plus en détail. Alors, appliquons toutes ces choses à des choses pratiques. Alors tout d'abord, la chose pratique qui est importante, c'est l'importance de la vérité dans nos décisions. Il faut que nos décisions soient remplies de la vérité. Alors, je vais vous donner une petite histoire qui va illustrer un peu mes propos. Une dépêche, vous savez ce que c'est une dépêche, hein, c'est un SMS, un truc comme ça qui arrive, très importante, venait d'arriver au siège de la direction d'une grande société d'affaires. Les directeurs se réunirent immédiatement et en quelques minutes, l'endroit devant la scène d'une activité intense. Les téléphones sonnaient, les messages furent envoyés par courrier électronique, les doigts agiles des dactylos s'activaient sur les claviers des ordinateurs. De quoi ? S'agissait-il ? Eh bien, il s'agissait d'une question vitale, liée à cette importante information, et il fallait une réponse. Vous voyez, les directeurs, c'est payé pour prendre des décisions, pour répondre. Une réponse sûre et sans équivoque. Et sans cette réponse, aucun des directeurs responsables ne se sentait en paix. Tout le monde se demandait, cette nouvelle est-elle vraie ? On est dans la vérité. Est-elle vraie ou fausse ? Telle était la question à ce moment-là. Non pas qui l'a apportée ? Ou est-elle agréable ? Ou est-elle une bonne idée ? Ou est-elle rassurante ? Ou est-elle plaisante ? Non ! Qu'elle fût agréable ou pas agréable, ce qui comptait, c'était est-ce la vérité, cette nouvelle ? À ce moment-là, personne ne critiqua l'homme qui a apporté le message. Personne ne fit aucune remarque sur l'agence qui avait écrit l'article. Ce qui comptait à ce moment-là, c'était le message, le contenu du message. Et pourquoi ce message avait-il tant d'importance ? Parce que s'il était vrai, il fallait agir vite. Il fallait agir en conséquence et engager la firme. Si la nouvelle était fausse, une erreur, ben, il aurait été dangereux de s'engager dans une décision. Si elle était vraie, elle eût été dommageable de ne pas s'y engager. Aussi devait-il savoir à tout prix la justesse de l'information. Voyez-vous, on arrive à la vérité. Voyez, c'est un exemple de tous les jours. Là, c'est une firme très importante qui aurait pu perdre des millions, des milliards, etc. Et bien, nous, souvent aussi, on est pris dans ce genre de décision. Alors, je veux mettre l'accent sur quoi ? Sur le fait que la plupart des gens, nous y compris, on a tendance à critiquer l'homme, le messager qui apporte la nouvelle. La parole qui est apportée pour la dénigrer, en espérant faire taire la vérité qu'il apporte avec lui. C'était le cas des rois, avec les prophètes, hein, qui ne disaient pas les bonnes choses. Jérémie, il a été mis en prison, parce qu'il ne donnait pas, pour le roi, la réponse qu'il attendait. Le roi attendait une réponse. Il préférait les prophètes qui lui disent ce que lui attendait. Hello ? Vous voyez ? C'est un être humain, c'est l'être humain. L'être humain espère être rassuré. Donc, en fait, il cherche à piéger. Bon, Michel m'a mis sur cette piste-là aussi, souvent, en disant, regarde, dans les films aux États-Unis, une des tactiques dans les jugements, c'est de décrédibiliser celui qui est le témoin. Vous voyez ? Le témoin, alors on va chercher dans sa vie, alors on ne va pas écouter ce qu'il dit, si c'est vrai ou faux, on va décrédibiliser le témoin en disant, mais non, il y a 20 ans, il a oublié de payer ses impôts, donc il n'est pas crédible, donc on ne l'écoute pas. Donc du coup, on évite le message en discréditant le messager. C'est une technique, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est s'il dit vrai ou s'il dit faux. Il faut discerner le contenu du message qui est arrivé et la qualité de ce message. Et on voit que souvent, eh bien, il y a des gens qui se mettent en colère et ils se mettent en colère contre Jésus qui a porté le message de vérité. Et ça ne leur plaisait pas. Quand Jésus a dit bah, « Vous transformez le temple en un repère de brigands », ouais, ça ne leur plaisait pas. Pourquoi ? Parce que ça leur enlevait le revenu. Je vais juste prendre quelques exemples, deux exemples de cette église où on a vécu ça. Par exemple, la vérité du phare, cette vision du phare que je porte avec d'autres personnes depuis 30 ans. On l'a reçue ici par révélation prophétique, et pas des moindres. Et je dis ça dans les vidéos sur les trios de croissance. Mais quand j'ai vu que j'avais du mal, il y a quelques années, à continuer à transmettre cette vision-là, j'ai demandé de l'aide. Donc j'ai demandé à David Alonso qui est venu, mais au lieu d'écouter, il m'a critiqué. Et du coup, oui, parce que c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela, mais vision du phare, c'est par révélation qu'on a reçue, donc on la reçoit par révélation. Ensuite, il a dit non, c'est pas grave, on va demander à tout le peuple donc de revoir la vision. Voilà. Ok, donc ça a été fait. Pendant 2 ans, le peuple a travaillé. Et en fait, il n'est pas du tout ressorti la vision du phare. Il est ressorti une vision qui est très bien, très bien. Une vision d'église. Mais la vision du phare, c'est spécifique. Chaque église locale reçoit une vision si on croit que Jésus conduit cette église. Est-ce que vous croyez que Jésus conduit cette église ? Levez la main. Vous le croyez ? Ben, si on le croit, il faut croire que c'est lui qui a une vision sur cette église. Allô ? En tout cas, c'est ma conviction. Parce que ce n'est pas moi qui veux diriger cette église. Je veux laisser Jésus conduire cette église. Voyez, c'est différent. Et là, on se heurte à des gens, comme là c'était le cas, en disant « Mais non, cette église ou celui qu'il porte, il est blessé parce que il y a 20 ans, il y a eu des combats spirituels, enfin j'ai entendu tout ça. » Mais non, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vous voyez, c'est ça la question. Et si c'est vrai, ben, il faut s'engager dans cette vision. Allô ? Non ? Je déraille ou pas ? Je crois qu'il y en a qui sont sceptiques, là. C'est vous devant Dieu qui regardez. Moi, je sais que cette vision, c'est la vision de Dieu, pour ici. Et on a des preuves. Si vous voulez des preuves, allez à vous, les Huguenots. Allez-y. Un témoignage d'il y a 500 ans. Il y a eu un temple. Il y a eu une bénédiction incroyable ici. C'est le troisième personnage de la réforme protestante après Calvin qui était ici, qui a protégé cette région et qui a permis à l'Église de grandir. Et le Seigneur veut continuer. Deuxième exemple de vérité prophétique. En 2018, Michel, ici présente, elle a reçu une vision d'une femme qui, ici, dans l'église, on a longtemps parlé de cette vision, une femme avec sept bavards qui perturbaient l'église. Sept bavards qui perturbaient l'église. Et en même temps, il y a entre quelques mois avant, il y avait une jeune fille, la fille de Rodrigue, qui a eu une vision similaire avec une femme qui tirait la mitraillette et qui descendait tout le monde dans l'église. Ouais. Et c'était des visions de Dieu. Parce qu'il y a des visions qui viennent, bon, des rêves, des choses comme ça, mais des visions de Dieu. Et là, il faut les prendre au sérieux, mes amis. Il faut les prendre au sérieux parce que quand Dieu parle, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on met en pratique? Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas été vraiment pris au sérieux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vigilance, il n'y a pas eu de prière. Quand il n'y a plus de prière, quand il n'y a plus d'intercession, c'est pour ça que je vous invite à venir le mercredi au moins, et puis ensuite après, dans la chapelle, où on va établir des veilles de prière. S'il n'y a pas de prière, eh bien, je peux vous assurer qu'on ne peut pas faire d'église. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, parce que l'ennemi, il a des stratégies que nous, on ne peut pas, par notre intelligence, éviter. Il faut que Dieu nous aide, et c'est pour ça qu'il faut prier le nom de l'Éternel pour que lui vienne en secours. C'est, on a besoin de la prière. Allô? Donc, cette histoire des bavards, eh bien, ça fait des bavardages et des rumeurs, et personne n'a pu les arrêter, parce que quand il n'y a pas Dieu qui intervient, quand il n'y a pas l'ange du Seigneur qui intervient, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez juste voir les dégâts et le chaos, c'est ce qu'on a vu. Par contre, j'ai quelque chose, une nouvelle qui est importante à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vérité prophétique qui nous a été donnée, avec des événements heureux pour notre Église. Un songe qui a été reçu de la même nature, qui est très encourageante pour l'Église, avec la venue de nouvelles personnes et le placement des personnes par le Seigneur lui-même dans la nouvelle organisation de l'Église. Et ça, ça veut dire que la gloire de Dieu revient dans l'Église. Ça me réjouit. Alors ? En tout cas, moi, je suis réjoui, vous voyez. Si vous ne voulez pas, moi, je suis réjoui. Parce que moi, qui ai la responsabilité de cette église, je me dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, la gloire revient. Quand la gloire de Dieu revient, bien l'ennemi ne peut plus rien faire. Allô? Vous comprenez ça? Quand la gloire de Dieu revient, l'ennemi ne peut rien faire. Il est paralysé, parce que la gloire de Dieu, c'est une protection, un bouclier, tout ce que vous voulez, il ne peut rien faire. Quand la gloire s'en va, Ézéchiel chapitre 11, là je vous parlais d'Ézéchiel 8, où il y avait l'idolâtrie, Ézéchiel 11, la gloire est partie. Elle est partie de Jérusalem. Et du coup, Jérusalem était rasée. Mais quand la gloire revient, eh bien la paix revient, la gloire revient, la puissance revient, l'autorité revient, la prière revient, tout revient à sa place. Alors, la vérité sur nos décisions. Il faut recevoir la vérité. Deuxième point. Pilate, le procureur romain qui a accusé Jésus pour le mettre en croix, il a connu la vérité. Il a défendu la vérité. Mais aujourd'hui, il est en compagnie des perdus parce qu'il n'a pas reçu la vérité. Je vous lis l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 37. Jésus lui répondit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Hello ? Qu'est-ce que la vérité ? Vous voyez, Pilate reçoit des mains des grands prêtres, donc les grands prêtres qui voulaient tuer Jésus, parce qu'il gênait les grands prêtres, un prisonnier qui n'est autre que Jésus. Et après lui avoir posé des questions, Pilate se rend compte que c'est par jalousie, c'est le motif. Ce n'est pas que Jésus répond à leurs accusations, voilà. Mais c'est par jalousie parce que Jésus leur faisait de l'ombre, parce que lui, il guérissait les malades, eux, ils n'y arrivaient pas. Eux, ils disaient, la loi, il faut les suivre, ils ne suivaient pas la loi eux-mêmes. Enfin, vous savez, le peuple, il n'est pas, pas idiot. Hein. Il voit bien les gens qui sont hypocrites, hein, qui disent une chose et qui ne font pas, et les gens qui sont vrais. Ils ont vu que Jésus avait de l'autorité. Quand il disait quelque chose, ça arrivait. Alors, vous voulez ça, ça? Vous aimez ça? Des gens honnêtes, des gens qui sont intègres, ce qu'on appelle l'intégrité, Jésus était intègre. Bien donc, Pilate a vu ça. Il a vu que les Juifs, ils venaient par jalousie pour lui demander de faire mourir Jésus. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le droit, puisqu'ils étaient sous mandat romain. Donc ils viennent lui demander de rendre un jugement en accusant Jésus sur un mensonge plutôt que selon la vérité. Et Pilate est partagé entre le devoir d'acquitter le Seigneur et le désir de plaire aux Juifs. Vous voyez, un juge, là, il est pris entre deux feux, hein, celui qui est accusé, celui qui accuse. Et donc Pilate était dans cette configuration-là. Et au fur et à mesure que les débats se sont prolongés, on voit dans la parole de Dieu que les débats se sont prolongés, Pilate acquiert la conviction que pour être du côté de la vérité, il doit relâcher Jésus. Il a compris qu'il est innocent, que Jésus, il faut qu'il le relâche. Il sait qu'en cet homme se trouve la vérité même. Il le reconnaît. Quand vous lisez le texte, vous voyez qu'il reconnaît la vérité en Jésus. Son sens de la justice, parce qu'il était juge à ce moment-là, son exercice du droit décèle la fourberie de ses accusateurs. Et à trois reprises au moins, il tentera de les faire fléchir dans le sens de la justice. Il va essayer de leur dire « Mais non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, etc. » Il a cherché en tant que juge à défendre Jésus. Et quand à son tour, il devait prendre une décision, il devait prendre une position, il a dit « Mais non, maintenant c'est fini les débats, il faut que tu prennes une position Pilate. C'est toi qui es le juge, c'est toi qui dois prendre une décision. » Eh bien, à Jésus qui lui parle de vérité, il répondra de manière ambiguë « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Voyez-vous, c'est une astuce des politiques, c'est une astuce des gens qui ne veulent pas se mouiller. Des gens qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Puis il y en a tout plein. Parce qu'assumer une responsabilité, ça veut dire que j'ose prendre une position, même si ça me coûte. Voyez-vous ? Oui. C'est sûr que Pilate, vous savez, ça va très vite quand c'est comme ça. Enfin, là, ça a pris un certain temps. Il dit, Rome va me destituer si je la relâche. Vous voyez ? Il y a tout plein de choses qui se passent quand vous êtes juge, quand vous devez prendre une décision. C'est pour ça que beaucoup de gens, moi, je rencontre des gens qui disent « Tu as une responsabilité ?»« Ah non, pas de responsabilité. » Les gens aiment bien faire des tâches, mais pas de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'une responsabilité, ça veut dire que je te confie une tâche avec la responsabilité et je te demande de rendre des comptes sur ce que tu as fait. On se lave les mains, comme Pilate. Cette question de la vérité, en fait, elle est tordue de dire « Qu'est-ce que la vérité ?» Parce que cette question qui le condamne, car il sait bien où est la vérité, Pilate. Il sait qu'elle est en Jésus. La vérité est là devant lui, dans la personne du Seigneur. Mais il veut donner le change et laisser planer le doute. Ah, ça, c'est très politique, ça. Planer le doute. Ah, on ne sait pas. On ne sait jamais. Ah, vous voyez, comme je disais, le christianisme, c'est radical. Comme Pierre. La servante qui dit, mais tu étais là, on t'a connu, là, on t'a vu avec Jésus. Ah non, non, pas moi, non, c'était quelqu'un d'autre, tout ça. Vous voyez, c'est tout de suite le réflexe de dire, non, je laisse planer le doute parce que voilà, comme ça, je ne me mouille pas et je ne me prends pas de responsabilité. Pilate ne feint pas de prendre une position ferme, soit pour, soit contre. Certes, la vérité, il ne le connaît pas tout entière. Il sait que Jésus est la vérité. En plus, sa femme lui a dit, attention, touche pas à cet homme. Hein. Parce que j'ai eu un songe. Dieu a parlé à sa femme, dire, ne condamne pas cet homme. Parce que là, effectivement, ça s'est très mal passé après, ce jugement pour Pilate. Mais bon, ça c'est sa responsabilité. Pour ça, j'ai dit qu'il n'est plus dans le camp des sauvés, hein, lui. Voilà, parce qu'on connaît la suite. Il connaît la vérité, mais il cherche à échapper la responsabilité d'acquitter Jésus. En Pilate, il en sait assez pour que sa responsabilité dans cette affaire soit totalement engagée. Et sa façon cavalière de se laver les mains, vous voyez, c'est un rite, voilà, je me lave les mains, donc ça veut dire quelque part... Vous savez, moi j'ai vu des gens qui disaient quelque chose et qui croisaient les doigts derrière, parce qu'en fait, comme ça, ils annulaient ce qu'ils disaient devant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. Vous voyez, c'est des astuces, mais Dieu le voit, que vous croisez les doigts. C'est-à-dire que vous dites oui et derrière vous dites non. Moi j'ai vu des chrétiens le faire. Hein. Et oui, dans cette église. On voit des choses hein, quand on est pasteur. Hein. On est responsable, on voit de tout. Mais là, Pilate, eh bien, il a refusé de prendre parti. Il s'est lavé les mains. Et il a refusé catégoriquement de prendre la position pour Jésus, la vérité. Et Dieu le tient responsable d'avoir cédé à l'erreur plutôt qu'à la vérité. Et quiconque aujourd'hui sait qu'il est, sait où est la vérité, pose la question de Pilate et démontre par là son refus d'obéir à la vérité. Et vous là, vous pouvez méditer là-dessus. Hein. Dans l'Église, quand c'est comme ça que ça se passe, l'Église ne peut pas marcher correctement. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions. Et si on sait que c'est la vérité, il faut dire la vérité. Oui, même si ça coûte. Eh oui. Parce que Dieu justifie ceux qui sont dans le droit à la justice. Mais il ne peut pas justifier ceux qui, comme Pilate, essayent de s'en sortir. Je vous lis deux passages. Romains, chapitre 1er, verset 18, où il est question de ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est grave. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, ce texte parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, comme Pilate, soient condamnés. Je vais vous donner une histoire vraie. On rapporte qu'une jeune fille de famille chrétienne, qui avait souvent entendu parler de l'appel à la conversion, fut un jour particulièrement saisie par le message que le prédicateur avait apporté et convaincue par le Saint-Esprit qu'elle devait se convertir. Mais à ce moment-là, quand il y a eu l'appel pour venir se convertir, elle a résisté. Et une fois de plus, ce fut la dernière fois qu'elle avait cette chance. Et bien qu'elle a vécu de nombreuses années, cette jeune fille, à partir de ce jour-là, elle n'éprouva plus jamais aucun désir d'être sauvée. Donc elle était perdue. Comme Pilate, une puissance d'égarement s'était emparée d'elle pour toute sa vie. Mes amis, j'ai prêché il y a quelque temps sur aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Si aujourd'hui tu entends ta voix, sa voix n'endurcit pas son cœur. Voyez-vous, c'est très grave de dire « Ah ben, je reporte à demain ». Non, aujourd'hui. Pourquoi dans le temps des réveils que ma femme a connu, enfin la fin du réveil de Pentecôte ici, bien, il y avait tout le temps des appels. Qui veut accepter aujourd'hui? Moi, des fois, je dis ben, « C'est très bébête, quoi, à chaque fois. » Non, c'est peut-être bébête parce que regardez Billy Graham, ce qu'il faisait dans les campagnes. Qui veut accepter aujourd'hui? Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision tout de suite. Et sinon, on peut recevoir une puissance d'égarement où plus jamais on peut se convertir. Voyez-vous, c'est très grave de jouer avec Dieu et de jouer avec la vérité et de jouer avec le temps. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir à ça. En tout cas, pour la vérité, il faut exercer la foi. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, je vous donne juste trois versets. 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous devons rendre continuellement grâce à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il vous a choisi par la foi en la vérité. Paul dira dans Pierre, chapitre 2, verset 22, « Vous avez purifié vos âmes en croyant à la vérité. » Vous voyez, quand on croit à la vérité, on purifie son âme, parce que son âme est remplie d'erreurs, elle est humaine, charnel. L'esprit, il reçoit du Saint-Esprit. Et lorsque la vérité donc frappe à votre porte du cœur, ça c'est Apocalypse chapitre 3 verset 20, c'est pas pour des inconvertis, c'est pour les chrétiens que Jésus frappe à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne faut pas hésiter à chaque fois que Jésus frappe à la porte. Il dit, je suis là, est-ce que tu m'acceptes ? Mais c'est la vérité. Jésus est la vérité, il faut l'accepter par la foi. Je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur la vérité scientifique. La vérité scientifique, hein, dont je suis issu hein, en tant que scientifique, elle cherche à découvrir, à expliquer la réalité du réel. Il y a deux mots, réalité et réel. Créé par Dieu. Ce n'est pas diabolique, hein, la science, c'est simplement, on cherche à connaître la réalité de ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, Dieu nous a mis dans un jardin pour le gérer. Donc vous ne pouvez pas gérer un jardin. Je ne sais pas si vous faites un jardin. Moi, depuis tout petit, avec ma mère qui était une paysanne, je fais du jardin. Le jardin, ça s'apprend. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez arrêter tout de suite parce qu'il y a tout plein de choses qui vont vous décourager. Hein. Mais c'est la réalité. Vous êtes en face de la réalité. Vous avez le sol, vous avez les mains dans la terre et il faut produire quelque chose. Il faut arracher, il faut... Voilà. Donc la vérité cherche à expliquer notre entourage pour pouvoir mieux gérer, d'être des bons intendants pour le Seigneur. Cette vérité peut conduire aussi à la personne du Christ, la science. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à Christ au travers de la science. C.S. Lewis, celui qui a écrit Narnia et tout ça, il est venu par l'intelligence, par la réflexion, par la science et bien d'autres. Et aujourd'hui, vous en avez des exemples de grands scientifiques, la moitié des scientifiques, ils viennent à Dieu parce qu'ils disent que c'est impossible, tout ce qu'on découvre, que ça vienne de nulle part. Donc, ils viennent à Dieu. Je ne dis pas du Dieu de Jésus-Christ, de Dieu. Il y a deux choses qu'il faut bien décrire, il faut bien distinguer, c'est le réel. Ce qui existe en soi, indépendamment du sujet que nous sommes, c'est-à-dire indépendamment des perceptions et des pensées. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait le réel. Par contre, la réalité, moi j'ai une réalité autour de moi, une réalité que je découvre, eh bien, c'est ce qu'un individu perçoit et comprend. Et ça, c'est quelque chose qui évolue. Moi, ma perception de la réalité, elle change tout le temps. Elle change tout le temps au fur et à mesure de mon expérience, voilà, parce que je suis fini. Dieu est infini. Le réel est infini. La réalité, pour moi, est différente, parce que je découvre tout plein de choses que je ne connaissais pas avant. C'est la découverte de la réalité sensible, accessible à l'observation. Plus vous observez, je ne sais pas si vous étiez déjà dans la nature, vous cherchez des animaux, des choses comme ça, ben vous êtes là, hein, vous ne voyez rien. Et puis, il y a quelqu'un à côté de vous qui dit, regarde là-bas. Voilà. Vous voyez tout plein de choses. À un moment donné, au bout d'une heure, deux heures, trois heures, vous voyez tout plein de choses. Des animaux, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que la réalité, elle est devant vous, mais vous ne la voyez pas. Vous voyez ? C'est en observant, en étant attentif, que petit à petit, vous accédez. Ça a toujours été devant vous, mais vous ne l'avez pas vu. Parce que vous n'avez pas été sensible à cette réalité. La vérité scientifique est aujourd'hui très discutée. Malheureusement, à cause des errements médicaux, durant la Covid, il y a eu tout plein de choses, je ne vais pas le citer. Mais la vérité, la science expérimentale, qui est basée sur l'observation, la description de ce que vous voyez, une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est pas une thèse, une hypothèse que vous vérifiez en comparant des choses, et il faut au moins 60 comparaisons pour que vous obteniez une loi, ça devient une loi de la création de Dieu, vous voyez. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vrai, parce que vous faites une vérification de la vérité entre votre hypothèse qui ne deviendra une thèse que quand ce sera vérifié, quand vous obtiendrez exactement les mêmes résultats à la virgule près. Sinon, vous continuez. Vous voyez, c'est ça la science. Donc il n'y a rien de diabolique dans tout ça. Le problème aujourd'hui, je termine là-dessus, c'est que, en fait, dans la science, on a créé des disciplines. Vous savez ce que c'est, les disciplines? Disciplines scientifiques, etc. Dans l'Antiquité, il y avait combien de disciplines? On enseignait, hein, il y avait les grandes écoles en Grèce, etc. Il y avait combien de disciplines, à votre avis, qu'on enseignait? Ben, il y en avait trois, dont la théologie faisait partie d'une discipline. Trois. Au Moyen Âge, environ l'an 1000, 1000, 1100, il y en avait combien? À la Sorbonne, quand elle a été créée, la Sorbonne, c'est la première académie en Europe qui a été fondée. Il y avait combien de disciplines, à votre avis, qui ont été enseignées dans la Sorbonne? Pardon? Oui, mais parce qu'elle connaît la réponse. En fait, sept. Il y en avait quatre plus trois, je rentre pas dans le détail. Vous savez combien il y en a aujourd'hui dans l'académie, des disciplines académiques, hein, qui ont une chaire d'université reconnue, etc. Combien il y en a? Pardon? Combien? Plus de 100. Qui dit mieux? Parce que c'est plus que ça. Qui dit mieux? Pardon? Ben, c'est ce que je viens de dire. Mais j'attends un chiffre. Il faut se lancer dans les chiffres. Pardon? Non. Plus. Plus? Bah, écoutez, vous n'avez qu'à regarder. Pardon? Plus. Non, vous voyez comme quoi on a une idée de la vérité. Là, c'est une vérité. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez discipline scientifique. Pardon? Non, là, tu vas le double. Il y en a 8 000. Mais bon, 15 000, on les atteindra peut-être dans 10 ans, hein, parce que ça va être très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez l'expérience aujourd'hui. Vous voyez un médecin, il va dire: ah, mais non, il faut voir un spécialiste. Spécialiste, il va dire: ah, oui, non, mais là, il faut voir un autre spécialiste. Vous voulez être spécialiste en spécialiste parce que chacun a sa discipline et qui connaît plus que le précédent. Vous voyez? Aujourd'hui, Léonard de Vinci, ça n'existe plus. Quelqu'un qui sait tout, voilà. 8 000 disciplines scientifiques, académiques, qui sont prouvées. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus connaître la réalité dans son ensemble. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, on connaît un bout, la réalité, un bout, un bout, un bout, mais quelqu'un qui connaît les 8 000 disciplines, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on ne connaît plus la réalité de ce que Dieu a créé autour de nous. Donc on est perdu. Et du coup, on a inventé une nouvelle discipline, ça s'appelle la systémique. Donc on essaie de regrouper toutes les disciplines pour expliquer. Et ou la systémique, ou la transdisciplinarité, qui transcende les disciplines, pour expliquer la vérité scientifique, puisqu'on est dans la vérité observable scientifique. Et du coup, le peuple que nous sommes, hein, moi je ne suis pas spécialiste, expert d'une vérité, je connais la science, mais pas une discipline. Bon, j'ai travaillé dans l'espace, donc je connais un peu les lois, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas un expert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le peuple? Le peuple dit: oula, ça me dépasse. Donc, je me tourne vers des sciences qui sont globalisantes, qui explique tout. Et là, on se tourne vers les sciences orientales, le bouddhisme. C'est pour ça qu'il y a toutes ces techniques, toutes ces ouvertures du peuple qui ne croit plus à la science. Ben, par contre, il croit aux pseudo-sciences, celles qui ne sont pas démontrées. L'acupuncture, le reiki, etc., etc., vous en voyez beaucoup. Il y a une étude qui a été faite de statistiques, hein, qui montre que les Français, sur une très très grande proportion, à 60%, ils croient tous en une science parallèle. 60%. Aux États-Unis, c'est pire, c'est 69, presque 70% de science parallèle. Donc vous voyez, on revient à quoi? On revient au paganisme. Quand on dit on revient au paganisme, voilà, ah ben oui, mais ça c'est une énergie qui me va, ça c'est ceci, cela. Alors bon, on entend des coachs, ouais, tu fais ça, etc., des techniques, etc., et on s'ouvre à tout plein d'influences. Donc, on renie la science objective, scientifique, et on va vers des sciences parallèles, sous prétexte qu'elle explique le tout. Oui, la poncuponcture, vous piquez là, 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 et vous êtes guéri en bas, au doigt de pied, etc. Voilà. Bon, c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est accepté parce que les gens cherchent des solutions, ils cherchent des remèdes. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 16, il est dit, car en lui, c'est qui en lui? En Christ, en Jésus, en Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est incroyable ça. Donc en fait, on a, le chrétien, il a tout. Il a tout en Christ, il a tout. Toute la réalité de la création, c'est en Christ. Donc pourquoi on cherche ailleurs? Pourquoi le chrétien cherche ailleurs? Il y a beaucoup dans des églises qui cherchent un tas de trucs, un tas de techniques. Ouais. Je ne suis pas contre la science, la preuve. Je viens de vous dire, on va voir un médecin, etc. Mais Jésus est au-dessus de tout ce qui est médecin et Boniface a bien expliqué dans son témoignage ce genre de choses. Du coup, les scientifiques qui tombent dans un découpage de disciplines, eh bien, ne peuvent plus rassembler tout. Alors que Christ est l'alpha et l'oméga. Il est l'origine et la fin. Il est le tout. Et si on va vers lui, eh bien, on peut tout recevoir de lui. Mon fils, qui a fait une des plus grandes écoles de physique en France, à Grenoble, il a dit, un de ses profs leur a dit, écoutez, là, ça nous dépasse. Ce qu'on découvre en physique quantique, en mécanique quantique, on touche au spirituel. En observant les atomes, on touche au spirituel. Vous voyez? Des gens scientifiques. Donc vous voyez que ça forme un tout. Jésus, c'est un être spirituel. Eh bien, Jésus est l'origine de la création et tout. Eh bien, on le découvre. Donc si on va dans l'observation scientifique, on peut découvrir Jésus. Et plus, moi je dis, ben, continuez à chercher. Et plus vous continuez à chercher, eh bien vous allez rencontrer Jésus. Il est au centre de la création. Amen. Et là, c'est très important parce qu'il y a une condamnation sur le monde actuel. C'est Romains 1, 18. La colère de Dieu. Là, c'est pas l'amour, c'est la colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, c'est Jésus. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, mes amis, quand on ne veut pas reconnaître la vérité, ben, on croit à l'erreur, on croit aux ténèbres. Quand on ne reconnaît pas la lumière, on croit. C'est qui tout double, voyez-vous? Donc quand on connaît la vérité, il faut s'attacher à la vérité. Il faut reconnaître la vérité, il faut suivre la vérité, il faut l'aimer, Jésus. Sinon, aujourd'hui, on est en grand danger, en grand, grand danger. Parce que, je sais pas, il y a 4000 ans, l'Antiquité, on regardait le ciel. Aujourd'hui, bien sûr, on ne voit plus beaucoup à cause de la pollution. Mais vous allez en Orient, vous allez les myriades d'étoiles. Aujourd'hui, on les redécouvre avec les télescopes. Donc on regarde à la télé, au travers des machins, on voit les trucs. Mais à l'époque, on le voyait. Et aujourd'hui, on sait que c'est à l'infini. Plus ça va, plus ils trouvent des étoiles. Plus ils trouvent des. Voilà, parce que Dieu est infini. Et que l'univers, d'ailleurs, s'expanse. Donc de toute façon, c'est à l'infini. Vous ne pouvez pas suivre toutes les étoiles qui vont se former et qui sont en train de se former. Et là, aujourd'hui, on le sait scientifiquement. Et donc, l'homme d'aujourd'hui, il sera jugé pour ne pas avoir adoré Dieu, qu'il sait qu'il existe, parce qu'il en a toutes les preuves. Et je vous recommande le livre Dieu, la science, les preuves. Il le démontre de manière remarquable. Alors on se tourne vers les pseudosciences. Acupuncture, homéopathie, heptonomie, clairvoyance, astrologie, feng shui, etc. Or la vérité dans ces pseudosciences n'existe pour ceux qui y croient. Il faut y croire à ça. Moi, je ne crois pas à l'homéopathie, à l'acupuncture. Il y en a qui croient parce qu'ils disent que ça marche. Alors que la science, tout le monde peut le vérifier. Si je prends un stylo, je laisse tomber, c'est F égale M gamma. Que ce soit ici, au pôle Nord ou n'importe où, c'est toujours pareil. Donc, c'est une vérité qui est solide, ce qu'on appelle les sciences solides. Pseudo-science, c'est, voilà, si vous y croyez, c'est bien. D'ailleurs, ça vous fait du bien, c'est bien, on ne connaît pas les suites et tout ça, peu importe. Voilà. Donc, vous voyez, on se rue vers les pseudo-sciences qui ne sont pas des sciences. Et pire aujourd'hui, c'est on se rue vers des opinions. La croissance des réseaux sociaux augmente la pluralité des vérités qui sont partagées. Alors, parce qu'ils sont partagés par, je sais pas, 500 000 personnes, c'est une vérité. Mais les logiciels, vous savez comment c'est fait, hein ? Une ânerie, ça vous produit 100 millions d'âneries. Voilà. Et tout le monde dit, ah ben oui, c'est parce qu'il y a 100 000 trucs, c'est une vérité. Vous voyez, on arrive à une telle bêtise aujourd'hui, à cause de la technologie. Avant, on n'y arrivait pas, bon, c'était le téléphone, je ne cite pas le nom, qui se passait, mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et qui sont transformés en vérité. Donc, mes amis, on est mal. On est mal, et je vous invite à revenir à la parole. Revenons à la vérité des Écritures. Cette vérité dont je parle est incarnée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus, qui a confirmé la véracité de ses paroles à travers la citation. Lui-même citait les Écritures, qui étaient l'Ancien Testament. Il est écrit. Jésus reconnaissait la véracité des Écritures en citant l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de nouveau à l'époque, d'ailleurs. Donc prions pour que cette parole qui n'a pas changé, devienne pour nous déjà révélation. Il faut qu'elle soit révélée. Voyez-vous, Jésus, à un moment donné, a dit à ses disciples, « Mais qui dites-vous que je suis ?»« Bon, voilà, on dit que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. » Mais il dit, « Vous, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus a dit, « C'est mon Père qui t'a révélé ça. » Voyez-vous, il faut une révélation. Parce que la révélation touche le cœur. Touche notre être entier. Et quand on a une révélation, eh bien, on peut vous mettre sur une croix. Vous dites, mais je peux pas renier la révélation que j'ai. Vous voyez, c'est une conviction tellement forte, hein, et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Une conviction forte parce qu'on a reçu une révélation. Amen. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions recevoir concernant la vision du phare, que je vois bien quand c'est révélé, eh bien, on peut vous le retenir. Et du coup, ça devient une dynamique pour l'action. Éphésiens 4, verset 14, dit « Afin... » Alors, on reçoit donc les enseignements des gens, des ministères apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, dans l'Église que Dieu envoie. On les reçoit pour que, verset 14, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez-vous, un corps que nous formons ici, si nous sommes reliés les uns aux autres par la vérité de la puissance, de la vérité de la parole dans l'amour, et nous on l'a vu avec Gilles, la puissance de la vérité de la parole, eh bien ça ressoude les liens. Il n'y a que ça pour ressouder, c'est que Jésus qui peut ressouder les liens. C'est lui, la tête, nous sommes le corps. Et tous les membres doivent être ensemble. Voyez-vous ? Il faut avoir cette vision, cette révélation de la parole. Et les gens qui disent, ah oui, mais moi, à l'Église, moi, j'écoute sur Internet, j'ai rien contre d'écouter sur Internet. Moi aussi, j'écoute sur Internet. Mais l'Église n'est pas une Église Internet. L'Église, c'est des frères et sœurs comme là, où on est ensemble, où ensuite, après le culte, on peut partager, on peut échanger, on peut s'édifier, on peut faire des choses ensemble, faire des projets, évangéliser ensemble. C'est ça, le corps. Hello? Oui, c'est pas un membre qui est à droite ou à gauche, sinon on peut faire un corps sur toute la planète. Non, c'est un corps local qui est rassemblé ensemble et qui, où le Christ est au centre. Amen. On va terminer avec une prière. Je vous invite, si vous le souhaitez, vous associer à cette prière. C'est une prière que je vais faire en votre nom, si vous vous associez à ça. C'est pour prendre une décision de laisser la parole comme source de vérité en nous. Si vous voulez que la parole de Dieu devienne une source de vérité, de révélation en vous, vous pouvez vous associer à cette parole que je vais faire. Seigneur, moi aussi, j'ai eu des moments de doute sur ta parole et je t'en demande pardon. J'ai cherché la vérité ailleurs que dans ta parole et je t'en demande pardon. Aide-moi à me recentrer sur elle et à croire qu'elle est la vérité pour ma vie et aide-moi à la mettre en pratique. J'ai entendu ton appel aujourd'hui et je te laisse entrer dans mon cœur pour recevoir la capacité à obéir. Au Dieu de vérité, je me range résolument de ton côté. Je crois qu'en ton Fils est la vérité et la vie éternelle, et je me donne à lui sans réserve aujourd'hui. Je te demande ta grâce, Père, pour rester fidèle à ta vérité, au nom de Jésus. Amen.